Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alors pour message d'introduction pour l'année, parce que c'est un petit peu notre début d'année, je voudrais l'intituler « Être capable de faire des progrès ». Une année de progression. Alors, pour introduire ça, j'aimerais lire avec vous dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, et les versets 2 et 3. Le 2, parce que c'est une bonne introduction. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » On appelle ça les salutations. Mais même les salutations dans la Bible ont leur importance. C'est pas rien, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et il continue, « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. » Donc progrès et augmenter de plus en plus. Voilà un peu ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Et donc, il y a la nouvelle année, on change de millésime, et qu'est-ce qu'on en attend de la nouvelle année? Nous ne sommes pas le 1er janvier, quelques jours sont déjà passés, et tout ne s'est pas forcément arrangé. Il y a des gens qu'ils ont terminé le 31 décembre, et quelques jours se sont passés en janvier, et il y a des choses qui ne se sont pas arrangées. Il y a des maladies, il y a des difficultés. Et pour certains, on peut avoir l'impression que ça recommence comme ça a toujours été, comme avant. Donc, on a beau se fixer sur ce calendrier et cette date qui change, des fois, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, on s'accroche après des choses qui sont un peu de nature utopique. On rêve un peu, on se dit, ça y est maintenant, il y a le 1er janvier du calendrier, quelque chose va se produire. On s'accroche un peu comme à quelque chose de mystérieux, de magique. Alors la première chose qu'il faut qu'on réalise vraiment bien, chacun d'entre nous, c'est que, nous le savons, mais il faut se le rappeler, nous sommes dans une guerre spirituelle permanente. Il n'y a pas de moment de paix, de calme, de tranquillité, même si les gens veulent des fois donner cette impression lors de Noël, qu'il y a une espèce de trêve, et que c'est la joie, la paix. Mais la réalité du monde a continué. Avant comme après, en décembre comme en janvier, nous sommes dans une guerre spirituelle. Donc, prenons un autre passage des Épîtres dans Éphésiens. J'aimerais vous rappeler, au chapitre 6, au verset 10, que l'apôtre Paul nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Et au reste, d'après le texte grec, on pourrait aussi le dire de la façon suivante, on peut dire « Finalement ». Finalement, mes frères, avec tout ce que j'ai dit, vous savez que l'épître aux Éphésiens est une épître particulièrement riche. C'est une épître où il y a des points de doctrine très importants et en même temps, il y a une part de révélation extraordinaire de certaines choses, comment Dieu, de toute éternité, avait préparé les choses pour l'Église, pour la révélation de l'Église, pour le salut de l'humanité. Et ayant parlé de toutes ces choses tellement importantes et tellement profondes, il dit au reste... Finalement, et j'ai encore une chose à vous dire, je rajoute quelque chose, et d'après un érudit grec qui s'appelle Rick Renner, il dit, et même si vous deviez oublier tout le reste, surtout n'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant, d'accord? Quand on voit ce qui est dans Éphésiens, il dit, même si vous deviez oublier tout le reste, surtout n'oubliez pas ceci. Alors ceci c'est, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Comment vous voulez être capable de faire des progrès pour réussir cette année ce que vous n'avez pas réussi l'année dernière? Si ce n'est en vous fortifiant, en allant de progrès en progrès et en changeant un certain nombre de choses. Pour cela, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans notre contexte du monde dans lequel nous nous trouvons, dans notre contexte de la situation sociale, économique de notre pays, de toutes les idées qui sont véhiculées. À la lumière de ce passage, une fois de plus, on se rend compte que ce n'est pas des questions simplement de politique. Mon avis contre son avis. Il y a plus que ça. Nous n'avons pas le temps de faire maintenant une étude sur le combat spirituel et sur l'influence des esprits mauvais sur la pensée des gens, mais c'est une réalité qui nous est décrite ici, que nous avons une lutte réelle, non pas contre des êtres humains, mais contre des autorités spirituelles. C'est pour ça, revêtons-nous de l'armure. Et quand je dis se revêtir, c'est pas symbolique. Des fois, il y a des gens qui ont fait des choses en disant, voilà, je mets mon casque du salut, on fait une gestuelle. Je n'ai rien contre. Si ça peut vous aider, c'est bien. Mais vous devez comprendre que l'important, c'est, on n'est pas à un carnaval, on n'est pas en train de faire un déguisement et de mettre une armure du soldat romain et pensant qu'on deviendra un chrétien plus costaud par là. De comprendre, quand je mets le casque du salut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'assurance du salut que me donne la Bible au travers des promesses de Dieu protège ma tête et mes pensées. Le diable ne vient pas sans cesse me dire « Mais est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que tu peux vraiment t'approprier les pensées ?» Donc ça devient quelque chose de réel. J'ai le casque du salut, j'ai mon assurance, ça protège ma tête. La cuirasse de la justice, c'est-à-dire « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ ». Toutes ces choses deviennent réelles pour nous. Je peux m'en revêtir. Alors, je ne sais pas si dans le naturel, d'habitude, on n'est pas habillé pareil le jour et la nuit, d'accord? Donc le matin, on se lève, on s'habille. Et spirituellement, ça ne veut pas dire qu'on s'est déshabillé. Mais le fait qu'on laisse un peu certaines choses aller, ça fait qu'on oublie un peu l'état dans lequel on est. Alors on a besoin de s'en revêtir tout à nouveau, on a besoin de se rappeler toutes ces choses qui sont décrites de l'armure de Dieu. Verset 13, c'est pourquoi, prenez toutes les armes. Si il faut les prendre, c'est peut-être qu'on les a posées. Alors, vous ne deviez pas déposer les armes. Déposer les armes, symboliquement, ça veut dire, je capitule, j'arrête, je me rends. Donc vous ne deviez pas le faire, mais si par négligence ou si à cause des circonstances, à un moment donné, vous avez baissé votre garde, vous avez posé l'arme, eh bien, reprenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Faites de nouveau ce que vous savez que vous devez faire. Tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dans un monde où on vous dit, il n'y a pas une seule vérité, il y a plusieurs vérités, puis ça dépend de quel point de vue on a, et de quelle façon on voit les choses, si, il y a une vérité. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc voilà toute l'armure. S'en revêtir, c'est bien, mais ça ne sert à rien encore. D'accord? Il faut pouvoir s'en servir. Donc, pour ça, il faut s'exercer. Vous vous rappelez de David, le roi David, avant qu'il soit roi, quand il était le jeune berger qui était sur le point d'affronter Goliath, on voulait le revêtir de l'armure de Saül. Il a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas faire la guerre avec ça. Je n'y suis pas habitué. Donc, peut-être elle était trop lourde, peut-être parce que c'était pas non plus un gringalet ou un maigrichon. Et c'était un homme de guerre. Plus tard, on a dit de David, c'était un héros. Mais, sur le moment, il n'a pas pu s'en servir. Donc, il faut s'exercer. Se revêtir ne suffit pas. Il faut s'exercer, justement, pour pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Il y a un moment difficile. Donc, l'exercice, c'est toujours avant qu'il y ait la bataille. Et finalement, il faut se jeter dedans, dans la mêlée. Verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » C'est ça notre bataille principale. « Par les prières et les supplications en tout temps. » Et comme j'aime à le dire, ça ne veut pas dire vous vous enfermez dans votre chambre ou je ne sais où et vous ne faites que ça toute la journée, vous priez, vous priez, vous priez. Mais ça veut dire qu'à tout moment, du jour ou de la nuit, vous voyez un besoin, vous entendez parler de quelque chose, vous êtes conscient de quelque chose qui se passe, vous lancez une prière. Comme des flèches dans le camp ennemi. Vous vous rappelez de ce que nous avons partagé il n'y a pas longtemps sur le prophète Élisée. Il avait dit au roi, prends les flèches et frappe-les par terre et tire par la fenêtre des gestes prophétiques qui voulaient dire quelque chose. Et ici, il est dit, en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est pas Seigneur bénis le monde entier, amen, c'est terminé. Hein? Il faut cibler. Hein? Et de temps en temps, Dieu vous montre des têtes ou des noms ou des situations. Donc c'est ça qui compte. Et de déclarer une promesse de Dieu sur une situation, sur une personne. Priez quoi? Ben, par exemple, Paul, il est précis. Il dit, priez pour moi. Il n'a pas dit, priez pour moi. Point. Les gens d'Éphèse ont dit, il faut prier pour Paul. Et ils ont dit, Seigneur, bénis Paul. Non, c'est pas ça. Les gens ne priaient pas comme ça. Ils priaient plus précisément. Et qu'est-ce qu'il a dit? Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Voilà, quand j'ouvre la bouche, donc on peut prier quand quelqu'un ouvre la bouche, qu'il puisse faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul, comme chacun d'entre nous, c'était pas un extraterrestre. C'était pas Superman qui avait jamais de problème. Ambassadeur dans les chaînes, il lui est arrivé de se retrouver en prison. Et quand on est en prison, ben on n'est pas toujours au top du moral. Donc il peut y avoir des moments difficiles. Et à un moment donné, ben peut-être l'assurance, elle baisse un peu. C'est Paul, tu as vu la situation dans laquelle tu es? Et puis, Paul qui parlait hardiment et des fois très fortement, ben, il se peut qu'il en soit affecté. Il a dit, mais priez pour moi afin que je puisse continuer de faire comme ça. Donc, on est en guerre, revêtons l'armure pour que ça change. Donc, on veut concrètement qu'il y ait des choses qui changent dans notre vie. Santé, travail, relations, des choses très précises. Mais ça fait partie de la guerre spirituelle. Alors, pour que ça change, pour qu'on reste dans notre cadre de début d'année, il faut prendre des résolutions. D'accord? C'est ça le mot-clé, résolution. Tout le monde écrit « résolution ». Alors, les résolutions ne doivent pas être des vœux pieux. Alors, j'ai quand même cherché la définition précise du dictionnaire des vœux pieux. Parce qu'au début d'année, tout le monde fait des vœux. Hein. Bonne année, bonne santé. Hein. Et on se souhaite des choses, mais des fois on dit de certaines choses que c'est des vœux pieux. La définition des vœux pieux, c'est un souhait irréaliste. Vous regardez dans le... Parce que nous, quand on parle de la piété, c'est quoi? La piété, c'est l'attachement à Dieu. Donc ça devrait être accompagné de quelque chose de positif. Mais un vœu pieux, d'après la définition, c'est quelque chose qu'on aimerait qu'il se réalise, mais que finalement, il n'y a aucune raison pour que ça puisse être réalisable. Donc, quand on prend des résolutions, il ne faut pas que ce soit des vœux pieux, et les gens disent des choses avec plein de bonnes intentions. Bonne année, bonne santé. Qu'est-ce que j'ai entendu dernièrement? La santé, surtout la santé, je suis d'accord que c'est très important. Mais le reste n'a pas d'importance, j'ai entendu. Ça me fait bien rire, le reste n'a pas d'importance. Non, mais oui, il y a beaucoup d'autres choses qui ont de l'importance, même si la santé c'est important. Donc on dit des choses comme ça. Donc prends des résolutions, d'abord est-ce que tu es déterminé? Si tu n'es pas déterminé, tu ne prendras pas de résolution ou alors il n'y aura aucun changement. Donc pour que ça change, premièrement c'est prendre des résolutions, deuxièmement c'est... Ce que tu tolères, tu ne peux pas le changer. On se l'est rappelé hein, il n'y a pas longtemps. Ce que tu tolères, il y a un slogan comme ça qu'on avait entendu. Ce que tu tolères, tu ne peux pas le changer. S'il y a une chose que tu trouves acceptable dans ta vie, tu ne vas pas faire d'effort pour le changer. Tu vas trouver que non, ça va, il n'y a pas de problème. Je peux vivre avec ça. À un moment donné, il faut dire non, je ne peux pas accepter que ça continue dans ce sens. Et on peut se faire des réflexions alors, justement, qu'est-ce que je suis en train de tolérer? Est-ce qu'il faut vraiment faire la guerre? Est-ce que c'est si important? Et on va voir un contexte biblique là. Numéro 3, le contexte biblique d'une nation en guerre. Et je pense spécialement à notre pays de France, aujourd'hui dans une bataille, dans plusieurs batailles même. Et nous trouvons la référence dans Juges 5 au verset 6 et suivant. Le livre des Juges, c'est le slogan. En ce temps-là, en Israël, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et quand chacun fait ce qui lui semble bon, alors rapidement, c'est la pagaille. Il n'y a plus rien qui marche. Alors, qu'est-ce que fait Dieu? Il envoie des prophètes, des personnes qui parlent de la part de Dieu. Et des fois, il envoie des prophètes qui sont des prophétesses. Ça arrive aussi. Dieu peut parler par une femme. Oui, c'est possible. Même si beaucoup de... Dans beaucoup de cultures, on a du mal avec ça. Mais la Bible, une fois de plus, est révolutionnaire. Jésus a apporté une chose extraordinaire dans le monde de son époque, dans ses relations qu'il avait avec les femmes et la considération qu'elles avaient à ses yeux. Mais déjà du temps de l'Ancien Testament, Juges 5, on voit la femme prophète qui s'est levée. Il nous est dit au temps de Shamgar, fils d'Anath, temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. On ne prenait plus la route habituelle, c'était trop dangereux. Il pouvait y avoir des embuscades, donc on essayait de se faufiler comme on pouvait. Tellement le pays était dans une détresse importante. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Israël avait choisi de nouveaux dieux. Comme la France a choisi des nouveaux dieux et des idoles, à un moment il y avait la déesse de la raison qui devait supplanter la foi, alors la guerre était aux portes. Quand on se moque de Dieu et qu'on le rejette, la guerre est aux portes. On n'y voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Donc il y a la guerre qui est à la porte, mais il n'y a pas de force et il n'y a personne qui est prêt pour faire la guerre. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. C'est pour ça que je vous stimule pour que vous soyez prêts à combattre spirituellement. Bénissez l'Éternel. Tu vois que ça vient faire là-dedans, au milieu de... Bénissez l'Éternel, une louange spontanée. Et il est encore dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Une louange, vous qui montez de blanches ânes, qui avez pour siège des tapis. Et qui marchait sur la route, chantait. Tiens, tout à l'heure, les routes étaient abandonnées. Maintenant, il y a des gens qui marchent sur la route, et non seulement ça, mais en plus, ils chantent. Ils sont capables de chanter sur la route alors que les routes sont dangereuses. Pourquoi? Parce que c'est des gens spéciaux. De leur voix, les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel. Toujours ce mélange entre la louange et la bataille. Les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors, le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Les portes, c'est toujours le siège de l'autorité. Quand on contrôle la porte, l'ennemi ne peut pas rentrer. Si la porte, elle n'est pas bien fermée, alors il peut venir. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. En quoi ça nous intéresse, les choses d'autrefois? Verset 13, alors un reste du peuple triompha des puissants. Un reste du peuple. On n'a pas besoin d'être des centaines, de milliers forcément. Un reste du peuple qui se lève et qui agit. Et vous, de la même façon, si vous voulez réussir en 2013, ce n'est pas avec beaucoup de choses naturelles extérieures. C'est simplement se lever spirituellement, savoir que Dieu est de votre côté, parce que la suite du verset, c'est « L'Éternel me donna la victoire sur les héros. » Sur des héros. Vous savez, quand on décrit les héros de l'Ancien Testament, des fois, les exploits qu'ils étaient capables, mais là, un reste du peuple triomphe des puissants et l'Éternel donne la victoire sur les héros. Donc vous aussi, quand vous avez des choses qui semblent être vraiment au-dessus de votre capacité, c'est des obstacles, des géants, vous êtes capable de triompher. Il faut donner les noms à ces héros, à ces puissants qui sont face à vous. Alors on vous dit de partout où ils arrivaient. Parce que ces choses sont notées dans le livre de Dieu. Il observe, il voit quels sont ceux qui se lèvent, quels sont ceux qui agissent. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs. De Zabulon tes commandements. Les princes d'Issacar furent avec Déborah. Et Issacar suivit Barak. Donc tout ça, c'est très intéressant de voir quels sont ceux qui ont répondu. Mais il fut envoyé sur ses pas dans la vallée près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Alors, dans la tribu de Ruben, il y a eu de grandes résolutions qui ont été prises. Ça nous fait souvent penser résolution. À quoi pense-t-on quand on entend le mot résolution? Peut-être les résolutions du Nouvel An, mais surtout les résolutions de l'ONU. Hein, l'ONU prend beaucoup de résolutions, mais ce n'est pas toujours appliqué. Et on a surtout l'impression qu'il y a une grande inefficacité pendant qu'il y a des situations graves qui se passent dans le monde. Ça met beaucoup de temps que les résolutions de l'ONU commencent tout doucement à se mettre en place. Et donc, bien sûr, on peut des fois pas se précipiter, mais ça fait penser à ça. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations de cœur. Alors, il y a des situations où il y a des gens qui prennent des résolutions sans suite et ceux qui délibèrent sans fin. On délibère, on délibère, on délibère et encore. Et à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, pour passer à l'action, déjà il faut voir dans quelle attitude nous sommes. Soit je veux que ça change, une attitude volontaire, ou alors une attitude défaitiste, on n'y peut rien, on peut rien y changer. Vous savez, beaucoup de gens sont dans cette attitude. Dire « Ah oui, mais l'écologie, l'économie, et ceci et cela, on aimerait que ça soit autrement, mais on ne peut pas, c'est pas possible ». Donc à un moment donné, il faut être dans cette attitude de « je veux » et penser que ces gens de la Bible, ils étaient dans des situations souvent minoritaires. Mais, et je ne vais pas donner le détail encore des autres peuples qui ont répondu à l'appel de Déborah, mais à un moment, il nous est dit au verset 20, « Des cieux ont combattu, et de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. » Sisera, c'était le chef de l'armée ennemie. Et là, de nouveau, une petite parenthèse au milieu d'un récit qui nous parle de quelque chose, on se dit, tiens, les cieux ont combattu. Il y a du secours qui vient du ciel. Et les étoiles, symboliquement, représentent les anges. Et nous ne sommes pas seuls dans la bataille. Dieu nous donne la victoire sur les héros et des cieux ont combattu. Vous n'êtes pas tout seul. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus, même quand il a eu connu la pire épreuve de tentation de sa vie au moment de Gethsémané, où il était tenté de que cette coupe s'éloigne de lui, de cette souffrance qu'il devait affronter, il nous a dit « un ange est venu le toucher et le fortifier ». Donc on a toujours des secours. Et donc les bonnes résolutions, à un moment donné, il faut dire « je veux que ça change, je veux que ça change ». Alors, maintenant, on sort un petit peu de la Bible et je vous lis un petit article que j'ai trouvé là. Bonne résolution, je m'y tiens. Le 31 décembre au soir, c'est promis. J'arrête de fumer, je renoue avec ma belle-mère, je ne craque plus pour la pâte à tartiner. Mais comment faire pour que tout ne semble pas hors de portée dès le 1er février? Alors nos conseils pour réussir à tenir ces promesses. Si j'avais vraiment réalisé à la piscine toutes les longueurs que je m'étais promis de faire le soir de réveillon, je serais devenue une championne olympique, nous explique Claire en souriant. Un grand classique. Autour de vous, vous ne comptez plus celles et ceux dont les résolutions de la nouvelle année sont restées sans effet. Raison le plus souvent invoquée, la lassitude, la paresse, le manque de temps, l'absence de résultats, ou pire, des résultats contre-productifs. « Je n'ai pas eu trop de mal à arrêter de fumer, raconte Thierry. Mais au bout d'un an, j'avais pris 10 kilos. Je me suis remis à fumer. Et je dois dire que c'est le meilleur régime que je connaisse. » 12% de réussite. Malgré tout, à quelques heures des 12 coups de minuit, vous êtes formel. Cette fois-ci, c'est sûr, vous allez faire au moins une demi-heure d'exercice par jour, éliminer ces petits kilos qui résistent à tout. Après tout, une demi-heure, ce n'est rien dans une journée. Le champagne aidant, vous voyez déjà lisant sur la balance le poids idéal. Oui, mais voilà, vous avez déjà pris le même engagement en 2009, en 2010, en 2011, et rien ne s'est passé. Comme pour 88% des gens qui s'étaient jurés de changer quelque chose dans leur vie, si l'on en croit une étude de Richard Weisman en 2008, un psychologue anglais, ce dernier a essayé de comprendre ce qui différenciait les 12% qui avaient mené leur projet à bien des autres. En fait, il n'y a pas de secret. Pour tenir une résolution, il faut un savant dosage de discipline, motivation et réalisme. D'abord, il faut se cantonner à une résolution. On ne peut pas faire du 1er janvier une date fatidique. Commencez quand vous vous sentirez vraiment motivé. Ayez des ambitions raisonnables. Vous voyez, ça rejoint un peu certaines choses qu'on a déjà vues à l'instant. Mesurez bien les difficultés de votre projet. Arrêter de fumer n'est pas uniquement une question de volonté. Cela exigera peut-être que vous fassiez aider par un professionnel de la santé. Faites un récapitulatif de vos décisions avortées et ne remettez pas au programme ce qui n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que vous devez renoncer, par exemple, à votre désir de perte de poids. Simplement, souvenez-vous des objectifs que vous n'avez pas atteints et changez d'approche. Plutôt que de chercher à perdre 5 kilos, pourquoi ne pas décider de faire plus de sport et manger équilibré? Acceptez l'idée que vous progresserez lentement. Apprendre le piano sera sans doute fastidieux. Déchiffrer, faire des gammes, au moins une heure chaque jour avec des voisins. Alors, le top 10 des bonnes résolutions. Se remettre au sport, arrêter de fumer, faire un grand voyage, arrêter de grignoter entre les repas, apprendre une langue étrangère, s'engager dans l'humanitaire, lutter contre le stress. Là, ils ont écrit « grâce au yoga », ça je le supprime totalement. Moi, je mets « grâce à la prière et à la méditation ». Lire davantage, manger bio, apprendre à jouer d'un instrument de musique. Voilà les choses qui reviennent le plus souvent que les gens veulent faire dans leur vie. Donc, toutes ces choses, j'ai pensé par rapport à ces 12% de personnes qui réussissent dans leur résolution. Vous savez, il y a la Française des Jeux, elle faisait un slogan à un moment, il disait au loto, il y a 100% des gagnants qui ont tenté leur chance. J'aimerais dire 100% des 12% qui ont réussi, ils ont pris une décision. D'accord? On ne peut pas dire « Ah, j'aimerais faire partie des 12%, des choses comme ça. » Non, c'est des gens, à un moment donné, ils y sont allés. Donc, là j'avais préparé quelque chose aussi. Ma troisième et dernière partie, c'est « Pourquoi se battre seul ?» Alors ici, ils disent « Recherchez le soutien des autres. Parlez de votre décision à votre entourage. » Il sera à la fois témoin de vos progrès et en mesure de vous rappeler, entre parenthèses gentiment, à l'ordre en cas de défaillance passagère. Et puis vous aurez à cœur de prouver que vous êtes capable de tenir. Évitez de prendre les mêmes décisions que tout le monde. Votre résolution se réalisera d'autant mieux qu'elle ne mettra pas en jeu l'image que les autres ont de vous. Mais un désir personnel profond. Pourquoi ne pas écrire un livre ? Une suggestion. Mais c'est important de savoir, on n'a pas besoin de copier tout ce que les autres font, ou faire parce que tout le monde le fait, ou ne plus faire parce que les autres ne font pas, etc. Mais de voir qu'est-ce qui est au fond de moi, j'aimerais atteindre comme objectif. Célébrez avec des amis vos petits pas vers la victoire. 6 semaines et je tiens le coup. De la rigueur, mais pas trop. Quoi que ce soit que vous décidiez, ayez un projet précis. Vous souhaitez aller 2 fois par semaine à la piscine, fixez les jours et les heures et respectez cet agenda. Un agenda est un instrument indispensable pour mener sa vie dans un monde moderne. Vous ne pouvez pas fonctionner sans agenda, à moins de vivre seul dans la brousse quelque part ou retiré de la forêt. Mais donc, c'est important. Qu'il soit écrit sur un calendrier ou papier ou avec les téléphones et les machines qu'on a, les tablettes. Mais respectez les agendas. Faites-vous des objectifs. Semez des penses bêtes. Un post-it à côté de la liste des courses. Un calendrier, vous notez votre assiduité, vos progrès pour vous remotiver chaque jour. Et enfin, Ne vous y imaginez pas infaillible. Ce n'est pas parce que vous avez dévoré 2 éclairs au chocolat ou que vous avez manqué 2 séances de natation que votre projet a tourné court. Les petits dérapages ne signifient pas que vous avez échoué. Donc, pourquoi se battre seul pour les changements que nous voulons vivre? Je pense que nous voulons des fois nous battre seuls parce qu'il y a encore une manifestation d'orgueil en nous. J'ai réussi. Vous savez, il y a cette image du self-made man qui est très, très, très marquée. Il est parti de rien et il a réussi. Il a eu du succès, etc. À un moment donné, il y avait ce slogan en anglais, c'était DIY. DIY, do it yourself. C'est passé. C'est complètement... faut l'oublier maintenant. C'est plus dans l'air du temps. Il faut plus le faire. Donc, vous connaissez le slogan actuel maintenant qui est préconisé, c'est D-I-W-O, Do It With Others, faites-le avec les autres. C'est ça le slogan actuel qui se pratique dans le business et dans beaucoup d'endroits. C'est complètement ringard de vouloir se débrouiller tout seul et ce n'est pas productif, ce n'est pas efficace. Et en fait, le monde redécouvre des fois les principes de la Bible, où il était dit nous sommes tous membres du même corps, on a besoin les uns des autres, etc. Sauf qu'à un moment donné, il y a des gens qui, j'ai besoin de personne, je m'en sors, etc. C'est beau que quelqu'un relève un défi, qu'il réalise quelque chose, mais la Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc à un moment donné, ça nous remet simplement à notre place en disant on peut travailler avec les autres et on n'a pas besoin de le faire tout seul. Donc ça peut être pour vos bonnes résolutions, de quelque nature qu'elles soient. Et moi j'ai aussi des défis spirituels à vous lancer, bien sûr. Hein. Comme j'ai dit, par la prière, le combat spirituel. Et donc, je termine encore sur une autre pensée dans ce cadre de pourquoi se battre seul. Quelqu'un dit, ce que vous serez dans 5 ans... dépendra des personnes avec qui vous vous associez et des livres que vous lirez. Pourquoi des livres que vous lirez? Parce que vous avez beaucoup de moyens d'écouter des choses, mais le livre, qu'il soit sous forme papier ou sous forme Kindle ou autre, le livre, vous le lisez à votre rythme. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez la possibilité de vous arrêter, d'utiliser votre cerveau, de réfléchir sur ce que vous avez lu et de pouvoir... agir en fonction de ça, prendre des décisions, le repasser en vous-même, c'est ça qui est formateur. Donc autant pour le livre et les personnes avec qui vous vous associez. On s'est tous rendu compte que des personnes qui des fois ont choisi un mauvais associé, alors des fois le business peut être ruiné ou d'autres choses comme ça. Et Ésaïe 30 est très fort, hein, les prophètes des fois ils mâchent pas leurs mots, hein. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Des résolutions. Donc, il ne s'agit pas que ce soit quelque chose qui vient de vous encore. Moi, cette année, je vais faire ceci, cela. Qui font des alliances sans ma volonté. Malheur, ça ne veut pas dire j'appelle le malheur sur vous. Ça veut dire, si vous faites ça, vous serez malheureux. Qui veut être malheureux? Il n'y a pas de volontaire, parce que nous, on cherche autre chose. Donc, prendre des résolutions sans Dieu et faire des alliances sans sa volonté. 2 erreurs à ne pas commettre en 2013. D'accord? Entre parenthèses, 1 Corinthiens 15, 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » S'associer avec certaines personnes a forcément une influence sur vous. Donc, considérez d'abord l'alliance que vous avez avec Dieu. Vous n'êtes pas seul. Même s'il n'y a pas d'être humain qui est là, vous n'êtes pas seul parce que lui est avec vous. Ensuite, on a parlé du ministère des anges qui sont là, la famille de Dieu et toutes sortes de personnes que Dieu peut mettre sur nos chemins. Donc, conclusion, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Encore un slogan d'une certaine marque de sport, c'était « Just do it ». Alors, disait « Fais-le, vas-y, fais-le ». Mets-toi devant Dieu, vois les résolutions. Je sais qu'on est le 13 janvier, le premier passé, tant pis. On va pas attendre le 1er janvier de l'année prochaine pour prendre des résolutions, d'accord? Et même si j'ai déjà échoué l'un ou l'autre échec en 2013, peut-être par rapport à quelque chose que je m'étais fixé, ça ne fait rien. Donc, on a dit que ne vous imaginez pas infaillible. C'est pas parce que vous avez raté quelque chose, un dérapage, que vous avez finalement oublié, échoué, pardon. C'est aujourd'hui le jour du salut. Toujours emparez-vous du quotidien. Et dites-vous bien que nous pouvons tous les jours rendre grâce à Dieu. Il nous est dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et pour terminer, je vous relis encore une fois notre passage de Thessaloniciens, que j'aimerais bien qu'il vous accompagne aussi dans votre vécu de cette année. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Alors on va transformer ça maintenant et le déclarer ensemble. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. Au sujet de chacun de nous, comme cela est juste, parce que notre foi fait de grands progrès, et l'amour de chacun de nous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.